Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez Martino, Cube Radio.
Hey, on vit une époque extrêmement difficile. Je regarde ce qui se passe en France. Ça va pas bien du tout, du tout. Ils sont en train de perdre le contrôle. Ils songent à un reconfinement massif en France. Et là, il y a des porte-parole des patrons, des organisations patronales qui disent si on reconfine totalement comme en mars, on s'en va vers un écroulement de l'économie française et on risque de ne pas s'en remettre. C'est pas rien, ça. L'écroulement de l'économie d'un pays, vous savez, c'est déjà extrêmement dur en France, là, la mobilité sociale, c'est pour ça que beaucoup de Français viennent ici, l'avenir est bouché, il y a très peu de jobs, etc. Et là, si en plus l'économie du pays s'écroule, c'est épouvantable. Donc, on a un autre 28 jours d'effort qui nous est demandé par François Legault. Nous allons parler avec Richard Thibault, président de RT.com, spécialiste en gestion de crise. Bonjour Richard.
Salut Richard, ça va bien ce matin?
Oh mon Dieu, ça
Salut
va bien.
Nous.
Écoute, c'est un coup de masse. En même temps, on s'en attendait là, quand même. Là. Est-ce que c'était une bonne idée, Richard, de dire, ben, il y a un mois, là, on va faire un mois d'effort, puis après un mois, ça va être correct, puis tout ça. Puis là, tu sais, quand tu dis à ton fils, là, je veux une PS5, papa, je veux pas te l'acheter, mais au 1er novembre, moi, te l'acheter. Puis là, arrive le 1er novembre, puis j'ai-tu ma PS5? Non, finalement, ça va être au 1er décembre. Tu sais, quand tu donnes des échéanciers comme ça, tu crées de faux espoirs.
Peut-être te rappeler, Richard, la dernière fois qu'on s'est parlé du même sujet, on s'était laissé en disant que le plus grand défi qui attendait le premier ministre Legault, mais le gouvernement de façon générale dans la gestion de cette crise-là, c'est un défi de communication. Et
oui.
Tu viens de mettre le doigt dessus, parce que je veux dire, dans le fond, la nature humaine est ainsi faite que de se faire reporter de fois en fois, ça devient de plus en plus lourd, parce que, bon, on a besoin de voir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, j'ai quasiment envie de te dire, si on savait que finalement on n'est pas sorti de l'auberge avant encore 8 mois, ce serait quoi la réaction de la population? Alors donc, d'une fois à l'autre, on est obligé de se dire, bon, on va prendre, tu sais, il y a un vieil adage qui dit la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le manger par morceaux, puis de le découper en petits morceaux. Mmh. Alors donc, c'est un peu la même chose. C'est qu'on essaie de se dire, on a un effort absolument, extraordinaire à faire, mais il faut y aller par morceaux. Et j'ai aimé ton introduction parce que je veux dire, dans le fond, j'aimerais, si tu veux, qu'on se concentre un petit peu là-dessus. En vertu d'un vieux principe qui veut que quand on se regarde, on se désole, mais quand
oui,
on se compare,
on se console.
Et bon, la France, je vais commencer là par où tu as commencé. Ce matin, je lisais un article de politique internationale là-bas dans le journal Le Monde, qui est bien connu. Et on disait que dans le fond, hier, seulement hier, là, il y a eu 26 000 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été officiellement diagnostiqués. Et en réalité, soutient un spécialiste, l'augmentation quotidienne du nombre de contaminations se situerait plutôt autour de 100 000 par jour. Alors, je veux dire, c'est infernal quand tu y penses.
C'est infernal.
Et qu'on réalise qu'en France, non seulement on est revenu aussi bas qu'on l'était à un certain moment donné, mais la deuxième vague, de toute évidence, elle est pire. Et là, on ne sait plus vraiment par quel bout prendre ça. J'ai des amis français, je parle avec eux autres. D'être chez eux enfermés, ils n'en peuvent plus, puis on voit pas le bout du tunnel. Mais bon, comme je dis, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se concentre. L'Italie, c'est un autre cas. L'Italie, on se rappelle que ça avait frappé très fort, rappelle-toi, la première vague. Ben là, la deuxième vague, le problème, c'est qu'on s'est dit, on fera pas un confinement généralisé, on va plutôt y aller par bout. Et eux autres, ils ont vraiment tombé dans l'erreur de je fais un petit peu ici, puis un petit peu là, puis ça va être ouvert, mais ça va être fermé. Avec comme résultat qu'on a créé une confusion, mais tellement grande en Italie, qu'on est en train de battre en Italie, crois-le ou non, les records de certaines villes françaises, parce que, je veux dire, la population ne sait plus à quel sens jouer, on ne sait plus où on s'en va.
Ben, c'est ça, Richard, parce que je parlais la semaine dernière à un spécialiste en communication, un expert en communication comme toi, français, qui s'appelle Stéphane Fuchs. Bon, je cherchais son nom, Stéphane Fuchs, qui a une entreprise de communication et qui disait, bon, il parlait de Macron, et il disait, on est tanné que le gouvernement français nous infantilise, il va falloir qu'il nous explique pourquoi il prend telle décision, pourquoi il décide d'ouvrir tel commerce, de fermer tel autre. Il va falloir qu'il nous montre les chiffres, qu'il nous montre les études, arrêter de nous traiter en enfant, dire qu'on est partie prenante de ces décisions-là. Et je pense qu'on peut faire la même critique envers le gouvernement d'ici, non?
T'as là un point qui est extrêmement intéressant, parce que on sait très bien que quand on est en situation de crise, on le disait au début de notre entretien, la communication va faire foi de tout, parce que c'est là-dessus qu'à la limite, on va juger de la performance d'une organisation. Mais il en demeure pas moins, Richard, que si tu savais, toi, hein, aujourd'hui, qu'on en a encore pour 8 mois, peut-être plus, que le vaccin, même s'il est disponible au début de l'année prochaine, on ne sera pas capable de le distribuer avant 6 mois plus tard, avant d'organiser tout ça, que là, finalement, il va y avoir un choix entre ceux qui vont être vaccinés les premiers, ceux qui vont l'avoir à la fin et tout. As-tu une idée de ce qu'on créerait comme insécurité dans l'ensemble de la population? Oui, j'en suis, il faut être transparent, il faut expliquer les choses, mais jusqu'où on peut aller expliquer les choses dans un contexte comme celui-là? Là où on en a marre, mais marre de cette situation-là, où on a envie d'en sortir. C'est pas mieux aux États-Unis, et même toi, le chef de cabinet du président des États-Unis qui disait hier, écoutez, on a jeté la serviette, cette pandémie-là, on n'arrivera jamais à la contrôler. Alors écoutez, le yob est aux vaches, le bordel est pris, et débrouillez-vous avec vos problèmes, puis on verra comment est-ce qu'on peut ramasser ça après. Quel message!
Ben oui, Richard, on dit, bon, le gouvernement doit être transparent, mais en même temps, est-ce que le gouvernement peut tout dire? Puis là, je reviens à M. Fuchs qui disait, bon, le gouvernement français manquait de masques. Au lieu de dire à la population, il manque de masques, on veut les réserver pour les soignants, ils ont dit, ne portez pas de masque, surtout pas, parce que c'est pas bon. La même chose est arrivée ici. Et là, M. Fuchs disait, il aurait dû dire aux gens, non, le masque c'est bon, mais il en manque. Mais t'imagines tout le gouvernement qui dit, il manque de masques? La panique.
Ça, là-dessus, je suis absolument d'accord avec toi. Comme gestionnaire de crise, j'ai été un des premiers à prétendre que c'est sûr que le masque, c'est pas la panacée universelle, mais c'est au moins un outil qui va nous permettre quand même de temporiser puis d'aider les choses un peu. J'ai été parmi les premiers à le dire. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Le fait que le gouvernement ne donne pas la vraie raison pour laquelle on devrait avoir recours au masque, ben, je te rappelle qu'à l'époque, on avait peur de manquer de masques dans le réseau de la santé
et
tout le reste. Alors donc, on n'osait pas dire aux gens, ben oui, ça vous prend des masques et tout le reste. Alors, on avait peur d'en manquer. On n'a pas pensé que l'ingéniosité humaine était ce qu'elle était et qu'il y a plusieurs petites entreprises qui ont vu le jour.
Mais le gouvernement n'aurait pas pu dire aux gens, il manque de masques. T'imagines la panique que tu crées dans la population.
Oui, et encore là, c'est le fruit d'une gestion déficiente de plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Puis on s'est dit, écoute, c'est pas si grave que ça. Je vais être franc avec toi. J'avais travaillé, moi, à l'époque, avec le ministère de la Santé dans le dossier de la crise H1N1. Et une des conclusions, en fait, je veux dire, qu'on avait tirées à l'époque, c'était qu'il fallait avoir des réserves pour être capable de parer à ce genre de choses-là. Mais 10 ans plus tard, le stock qu'on avait constitué, et s'était dégradé avec le temps. Alors, il y a beaucoup de ces choses-là qu'on a jetées. Puis comme, les gouvernements se sont succédés avec d'autres sortes de priorités, puis ça, c'était devenu moins important, puis la menace était de plus en plus loin, puis finalement, on a décidé de ne pas reconstituer les inventaires, avec comme résultat que quand on s'est mis à ouvrir des boîtes de masques, puis des boîtes de blouses, puis des boîtes de gants, puis des boîtes de ci, puis des boîtes de ça, on a réalisé que ce matériel-là était périmé. Alors donc, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'attendre à la dernière minute pour être capable de se prémunir contre une crise éventuelle qui était prévisible à une pandémie, là. Je veux dire, c'est pas la première qui arrive dans l'histoire de l'humanité.
Écoute, ça fait longtemps, là, que des experts disent qu'il va en avoir une. Le Bill Gates avait prévu ça, là. J'ai écouté des vieilles entrevues de Bill Gates qui datent de plusieurs années puis qui dit ça s'en vient, là. le plus gros défi des démocraties, ça va être les pandémies. On agit tout le temps quand on est dans le mur plutôt que d'agir avant de foncer dedans. Mais bon, là, les restaurateurs, là, ils disent, par exemple, là, on veut voir les études. Le gouvernement dit, on ferme les restaurants. Montrez-nous les études qui prouvent qu'on est des lieux d'éclosion et tout ça. Est-ce que tu trouves que c'est le rôle du gouvernement, justement, de jouer vraiment carte sur table?
Moi, je pense qu'il faut jouer visière levée en donnant toutes les informations que la population a besoin d'avoir pour comprendre ce qui se passe et là où on s'en va. Pour répondre plus précisément à ta question, moi, ma crainte serait de me dire, à partir du moment où on a cette étude-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va plutôt préférer prendre les mêmes chiffres, les calculer autrement, puis dire écoute, c'est plutôt ça, ça devrait pas être ça, c'est plutôt d'autres choses, avec comme résultat qu'on se retrouve dans un débat de spécialistes où finalement on va perdre la population. Parce que je te rappelle que l'objectif, c'est que le gouvernement gère pour la majorité de la population et on essaye de trouver les meilleurs outils, les meilleurs moyens possibles pour être capable de s'assurer de faire face collectivement à cette histoire-là. Alors, si on commence, faut comprendre une chose, faut comprendre comment ça fonctionne une cellule de crise. Ces gens-là sont en réunion, puis c'est pas parce qu'ils aiment ça, là, mais ces gens-là sont en réunion 7, 8, 9, 10 heures par jour à étudier les données, à regarder ce qui se passe, à les commenter, à les analyser, puis en bout de course, ben tu prends une décision qui va dans le meilleur des sens possible pour le bien-être de la communauté. Mais s'il faut, à toutes les fois qu'on a passé 10 heures de débat en cellule de crise, rendre ce débat-là public et de là tous les spécialistes patentés de la planète qui viennent les uns après les autres pour reprendre l'ensemble de ces discussions-là. Tu t'imagines la confusion?
Mais non, c'est ça, tout à fait. Et là, qu'est-ce que tu ferais, toi, là, mettons? Qu'est-ce que tu conseillerais à François Legault concernant là, les menaces de désobéissance civile de la part des propriétaires de gym? Parce que si tu acceptes ça, après ça, ça va être les restaurants. Après ça, ça va être, tu sais, à un moment donné, il doit faire quoi? Envoyer la police dans 200 gyms à travers la province?
Écoute, j'ai bon espoir, Richard. J'ai suivi ça hier comme tout le monde. J'ai bon espoir que d'abord ce mouvement-là ne sera pas nécessairement suivi par 200. Bon, quand on fait une conférence de presse de cette nature-là, là, on essaye de, comment dire, de se gausser du fait qu'on a un nombre de personnes importantes derrière nous, qu'on pense tout ça ensemble. Puis bon, à un moment donné, y en a-tu vraiment 200, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je pense qu'ils ont fait une première erreur importante quant à leur crédibilité, en tout cas avec le choix de leur porte-parole. Hein? Déjà d'avoir quelqu'un qui est connu et reconnu comme faisant partie de des Hells Angels, pas sûr que c'était le meilleur porte-parole qu'on pouvait trouver dans les circonstances. Non. Et puis troisièmement, le premier ministre a été très clair hier, il s'est pas étendu là-dessus, j'imagine qu'il en avait envie, mais il l'a pas fait, et finalement, ce qu'il a dit, c'est que la loi existe pour tout le monde, puis elle va être appliquée pour tout le monde. Alors, voilà ce que c'est que ça va donner. Crois-moi, il y a toute une série de personnes et de groupes dont on parle pas, je sais ceux qui crient fort, dont on entend parler, mais il y a un paquet de gens qui n'ont pas de voix parce qu'ils sont pas assez gros, parce qu'ils sont pas assez nombreux, et qui sont en train de disparaître également. C'est dramatique ce qui se passe, mais il ne faut pas penser que le gouvernement n'est pas conscient de ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Mais bon, que veux-tu, comme on dit souvent, on a une mauvaise période à passer, puis il va falloir survivre à ça.
Ah oui, tout à fait. Il n'a pas été élu pour ça, là, François Legault. C'est pas présenté en politique pour ça. Puis là, il se retrouve, tu sais. Puis tu te demandes quel genre de premier ministre il aurait pu être s'il n'y avait pas eu la crise, là. S'il n'y avait pas eu la pandémie, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour le Québec au point de vue de l'économie, au point de vue de l'identité, au point de vue de la défense de la langue et tout ça. Mais là, toutes ces énergies sont consacrées à cette crise. Petit problème, là. Incroyable.
La plus belle preuve, tu sais, on en parle, toi et moi, mais il n'y a pas un bulletin de nouvelles qui ouvre pas sans qu'on passe moitié du temps pour parler de ça. Tu t'en vas magasiner, faire ton épicerie. Tout ce que tu vois te rappelle qu'on est en crise.
Ah oui.
Alors, tu rencontres des amis, tu n'oses pas trop les approcher parce que tu sais pas comment est-ce que tu dois te comporter dans ce contexte-là.
C'est difficile pour tout le monde. Et une pensée là, pour ceux qui n'ont pas de job, une pensée pour ceux qui vivent seuls, les personnes âgées aussi, qui peuvent pas voir leurs proches, extrêmement dur. Merci beaucoup, Richard.
Peut-être une conclusion, si tu me permets. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console.
Tout à fait.
Et c'est sûr que ça règle pas notre problème. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs sur la planète, je vais te dire de quoi. Il y a bien des places sur cette planète-là où j'aimerais pas être. J'aime bien mieux être chez nous. Parce que, au moins chez nous, on a une apparence d'avoir un peu de contrôle sur le dossier. C'est long, c'est plate, ça dure, ça finit pas.
Il y a un plateau, là, c'est ça. Ça arrête d'augmenter. On est dans un plateau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Richard. Richard Thibault, président de RT.com, spécialiste en gestion de crise.